Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans le Mag au carré, une émission que j'ai le plaisir d'animer avec Audrey Jourdain. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré, comment allez-vous Audrey?
Eh bien très bien, nous allons parler de la logistique.
Exactement, un beau programme aujourd'hui. La logistique, plus précisément sur le plan européen, sur le marché européen, donc avec un chiffre moins 8% l'année dernière en 2022. Et notre invité aujourd'hui est Robert Demarchy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du développement pour le groupe GSE. On va en parler dans quelques instants. Vous allez nous présenter le groupe et puis on vous posera plein de questions. Mais on commence tout de suite avec votre édito, Audrey.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
En 2022, 58 milliards d'euros ont été injectés sur le marché européen de l'investissement en immobilier industriel et logistique. C'est moins 8% par rapport à 2021. Cette fluctuation négative de marché n'a rien d'étonnant pour trois raisons. La première, le marché de l'investissement immobilier a globalement rétréci à cause de l'instabilité de la situation économique et géopolitique. Deuxième raison, le rôle de l'immobilier dans l'allocation multiclasse d'actifs a été remis en cause. Troisième raison, la remontée des taux d'intérêt pénalise particulièrement la classe d'actifs logistiques qui avait atteint ces dernières années des taux de rendement planchers dus à l'engouement des investisseurs face à la croissance de la demande. Néanmoins, le marché est loin de s'être effondré comme la rumeur le laisse entendre. Son niveau est toujours hautement supérieur à celui du monde d'avant. Le volume investi est supérieur de 70% par rapport à 2019 et de 500% par rapport à 2012. Toutefois, les chiffres du premier trimestre 2023 sont particulièrement attendus. L'attentisme des investisseurs s'étant fortement accentué depuis le début du quatrième trimestre 2022.
Voilà, une petite baisse, mais rien d'alarmant. Merci Audrey pour cet édito. Tout de suite, place à notre invité.
Les invités du carré.
Et nous sommes donc avec le groupe GSE et son directeur de développement, Robert Demarchy. Alors, un petit mot peut-être pour nous présenter le groupe avant tout.
Mais GSE, c'est une société d'ingénierie à la base qui a bientôt 50 ans, qui pratique ce qu'on appelle le contractant global, c'est-à-dire conception, réalisation de bâtiments dans un domaine particulier pour ce qui nous concerne, qui est l'immobilier d'entreprise. Nous concevons et nous réalisons des bâtiments qui sont destinés à l'industrie, à la logistique et qui viennent donc servir une activité dans le cadre de ce qu'on appelle l'immobilier d'entreprise. Une société, comme je vous l'ai dit, qui a bientôt 50 ans, qui compte 650 collaborateurs et qui va faire cette année 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Et vous êtes situé où alors ?
Nous, le siège est en Avignon, historiquement en Avignon. Nous sommes présents dans toutes les régions françaises, ainsi que dans un certain nombre de pays européens, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. Et puis nous avons la chance d'être en Chine depuis de très nombreuses années, puisque GSE intervient sur les marchés chinois depuis 1976.
Donc ça veut dire quoi? Que vous achetez également en Chine, c'est ça?
Alors nous n'achetons pas, nous réalisons donc des produits, des bâtiments effectivement logistiques industriels également en Chine et plus particulièrement sur la côte shanghaïenne de la Chine.
D'accord, donc c'est exactement pareil qu'en France, sauf que c'est
le même métier,
Okay.
Les mêmes engagements, mais sur un territoire et une culture différente, et la culture fait toute la différence.
Et justement avec les tensions en ce moment qui peut y avoir avec la Chine notamment, est-ce que ça pose problème ou pas du tout?
Les tensions géopolitiques sont toujours des choses qu'on regarde de très près, mais sur lesquelles on a très peu de moyens d'action, si ce n'est de préparer des scénarios et d'être prêt à différentes situations. Mais sorti de ça, effectivement, les investisseurs, eux, regardent cela d'un peu plus près. Et notre métier à nous, c'est d'être suffisamment agile pour prendre les bonnes décisions, nous positionner au bon moment sur les bons marchés.
Alors, quels sont là vos tout derniers projets en France, par exemple?
Les tout derniers projets, je sais, en logistique... en logistique, on continue à beaucoup construire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement. Construire à la fois sur des bâtiments logistiques standards, sur des bâtiments un peu plus automatisés. En industrie, on est en train de livrer un projet très emblématique qui est pour un industriel canadien qui s'appelle sous cette marque en France Manicare, qui va produire des gants nitriles destinés au monde de la santé et tout particulièrement aux hôpitaux. Pourquoi un projet un peu particulier? Ben parce que c'est vraiment le projet qui symbolise tout ce qui se fait en réindustrialisation, relocalisation de production perdue sur les territoires européens et français, puisque je ne sais pas si vous le saviez, mais plus aucun gant nitrile n'était produit en Europe depuis de nombreuses années.
Et oui, c'est vrai qu'on faisait produire ça à l'extérieur, en Chine, souvent, en Asie.
On pensait effectivement que les marchés globaux permettraient de subvenir à tous nos besoins. Et puis, le Covid est passé par là, et puis les tensions géopolitiques viennent rajouter un peu plus de pression à tout ça. Et on se dit que finalement, c'est peut-être pas mal de savoir faire des choses qu'on savait faire peut-être auparavant et qu'on avait juste oublié de continuer à faire.
Alors justement, le gouvernement parle sans cesse de cette réindustrialisation de la France. Bruno Le Maire a dit qu'il était primordial de s'y attarder. Tout le monde en parle, Nicolas Dufourcq a sorti un livre dessus. Justement, est-ce que vous observez, vous concrètement, une réindustrialisation de la France? Est-ce que, sur le terrain, vous qui êtes sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça s'est vraiment accéléré l'année dernière, par exemple?
Oui, des retours de production en France, on en a vu beaucoup. Est-ce qu'ils ont tous donné lieu à de l'investissement industriel et immobilier, pardon? Peut-être pas, parce que d'abord les industriels ont performé leurs sites existants, ont rajouté des lignes, ont rendu des lignes de production plus performantes. Donc on n'a pas systématiquement eu du réinvestissement immobilier lié à la réindustrialisation. Mais on a quand même eu un certain nombre de projets. Je vais vous citer Manicare. Dans le monde de la pharmacie, il y a beaucoup de projets qui sont lancés aujourd'hui dans ces domaines de recapacité en termes de production pharmaceutique. Oui, le mouvement, il est là. Et là, on parle peut-être plus directement de réindustrialisation de production passée. Si on parle de réindustrialisation liée à des toutes nouvelles technologies, là, pour le coup, la France se porte très très bien et elle est plutôt bien située par rapport à nos voisins. Et là, je parle de tout ce qui se fait lié aux nouvelles mobilités, que ce soit des usines de production de vélos, que ce soit les gigafactories, et on sait qu'en France, on en a au moins 3 en cours, que ce soit les investissements liés au monde de l'hydrogène. Et GS en particulier a eu la chance de signer la première gigafactory d'hydrogène qui s'appelle McPhy. Donc oui, il se passe des belles choses aujourd'hui sur notre territoire national liées à ces réindustrialisations.
Donc pour certains secteurs, mais quand on parle au global de la réindustrialisation, là vous avez cité nos voisins européens, les Allemands, quand on parle de l'Italie, de l'Espagne, est-ce que c'est le même cas? Alors nous, c'est vrai qu'on a été un peu, on a été victime en fait de nos hommes politiques depuis des dizaines d'années qui ont voulu la France comme un pays de service et tout faire produire ailleurs. C'est ça le problème, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas chez ces voisins européens? En Allemagne, en Italie, en Espagne, est-ce que c'est à ce point-là? Est-ce qu'ils sont comme nous à ce niveau-là?
Les situations sont différentes de pays en pays. On sait que l'Allemagne a toujours eu un modèle industriel très fort. L'Allemagne vit un peu moins la réindustrialisation aujourd'hui parce qu'elle était déjà bien mieux lotie que nous ne l'étions.
Donc, ils ont moins délocalisé en fait en Allemagne.
Ils ont beaucoup moins délocalisé, ils ont gardé des champions de certaines industries. Donc oui, elle le vit un peu moins, mais elle a la chance d'avoir cet outil de production industrielle que nous n'avions pas. L'Italie est dans un phénomène actuel de rattrapage d'une situation passée qui était pire que la nôtre, même s'il y a quelques belles industries en Italie. En tout cas, on voit que c'est un pays qui se reconstruit d'un point de vue outil industriel et logistique, avec de très très beaux dossiers. D'ailleurs, GSE est en train de livrer ce qui est le plus grand dossier de production industrielle actuellement en Italie, sur une verrerie immense en périphérie de Milan. C'est bien le signe que ce pays actuellement bouge fort, vite et avec de très très belles compétences.
Donc ça, c'est GSE qui va le construire, par exemple?
Ça, c'est GSE qui l'a construit, puisqu'on le livre à la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire cette semaine. L'Espagne est un pays un peu plus difficile à comprendre puisqu'il est très volatile avec des spéculations, que ce soit sur les terrains ou sur le monde de la logistique en termes de produits spéculatifs, qui a toujours été très sensible. donc qui investissaient très vite et qui se braquaient assez rapidement. Donc l'Espagne a réagi avec un temps de retard, mais ça y est, l'Espagne a aussi ses beaux sujets industriels et par contre un peu plus de mal à ressortir des projets en logistique. Le Portugal est à regarder avec un peu d'intérêt, micro-marché, micro-pays, mais par contre de belles opportunités et une très très belle localisation. Donc oui, il se passe des choses dans ce pays qui, en termes d'immobilier d'entreprise, intéressent très fortement GSE, puisqu'on y a un développement assez extraordinaire et qu'il s'agira de regarder avec beaucoup d'intérêt dans les années à venir.
C'est vrai qu'on en parle beaucoup du Portugal. Quelles entreprises, par exemple, sont intéressées? Enfin, quel type d'entreprise, quels sont les profils des entreprises intéressées par le Portugal?
Sur le Portugal, aujourd'hui, très clairement, c'est à la fois de la grosse PME européenne, mais surtout un gros investissement dans la logistique. Je pense que le schéma logistique au Portugal avait besoin d'être performé, modernisé, et là, ça y est, ils sont en train d'y aller, et d'y aller avec beaucoup d'envie et beaucoup de réussite pour l'instant.
Donc là, vous citez le Portugal. La logistique, quand on évoque la logistique, c'est assez vaste, hein. On va se concentrer sur l'immobilier logistique. Quels territoires donc sont porteurs pour cet immobilier logistique, que ce soit en France, quel département, quelle ville, ou sinon quel pays voisin?
Bon, on va tout de suite passer aux pays voisins et on se concentrera sur la France. J'ai pas la prétention de connaître aussi bien que ça tous nos pays voisins. Après, c'est comme en France, concentrez-vous sur les grandes capitales, qu'elles soient administratives ou économiques, et vous avez fait l'essentiel du travail. Au Portugal, Lisbonne, Porto. En Espagne, c'est Madrid et Barcelone. En Italie, beaucoup de Rome. Ça se développe pas mal sur l'axe Rome-Venise. On descend un peu à Bologne, autour de Milan. Pardon, l'axe Milan-Venise, j'ai dit Rome tout à l'heure, excusez-moi. Donc l'axe Milan-Venise se développe très fortement et je devrais commencer à Turin d'ailleurs. On descend un petit peu à Bologne et puis autour de Rome, qui a toujours eu un peu plus de mal à se développer économiquement, les choses, ça y est, sont en train de prendre une belle évolution. Pour ce qui est de l'Allemagne, les grandes villes allemandes fonctionnent toutes plutôt très bien. Et la France a quand même du mal à sortir de son axe Lille, Paris, Lyon, Marseille, puisqu'on continue à concentrer l'essentiel de nos projets sur cet axe-là, avec quand même, sur les 6 à 9 derniers mois, des chiffres qui semblent très porteurs sur le centre Val-de-Loire.
D'accord, et ça comment
en termes de développement logistique? Je pense qu'il y a dans des cités, dans des villes comme Nantes, il se produit de très très beaux développements, des politiques visiblement de maîtrise et de libération des fonciers qui ont été pertinentes et prises au bon moment, et puis sûrement un dynamisme qu'on retrouve peut-être pas partout ailleurs au même niveau. En tout cas, les chiffres attestent que Val-de-Loire a l'air de se porter plutôt bien en termes de développement logistique aujourd'hui.
Justement, alors quand vous dites développement logistique, c'est que vous construisez par exemple des plateformes logistiques. Quand vous achetez le terrain, il y a quelque chose sur le terrain ou pas du tout? Est-ce que vous réhabilitez des friches industrielles? Ça arrive? Est-ce que c'est fréquent?
Alors, tout d'abord, GSE n'achète pas de terrain, puisque GSE... peut accompagner nos clients sur les montages d'opérations.
Oui, enfin, quand vous faites
Les friches industrielles, très très beau sujet. Je pense que on vit tous la zéro artificialisation nette des terres qui arrive sur nos territoires comme une contrainte. Chez GSE, on pense que c'est une sacrément belle opportunité, enfin, de se forcer à traiter ces 7 ou 8 000 friches qui existent en France. C'est 100... Les gens ne sont pas nécessairement d'accord sur les chiffres. On dit qu'il y aurait entre 100 et 120 000 hectares de friches en France. Eh bien, c'est bien qu'on puisse les traiter, puisque si il y a une chose dont on est convaincu chez GSE et que nous portons à toutes les strates de la société en partant de tout en haut, c'est qu'on ne peut plus construire aujourd'hui comme on le faisait demain et qu'on doit devenir extraordinairement éco-responsable dans nos façons d'être, de produire et de construire demain. Et s'attaquer aux friches, c'est la première des bonnes façons de le faire.
Et ça, alors, justement, cette nouvelle façon de construire, qu'est-ce qui a changé chez GSE dans votre façon de construire?
Ce qui a changé chez GSE, c'est que les aspects environnementaux ne sont plus une option chez GSE.
C'est systématique, en fait.
C'est un socle fondateur d'une offre GSE est éco-responsable. Par exemple, on a embauché nos propres écologues. Ça veut dire qu'on a la conviction qu'on doit se poser les questions de biodiversité, qu'on doit trouver les bonnes solutions dès les premières ébauches d'études et pas attendre que quelqu'un vienne nous édicter des règles, parce que si c'est ça, c'est qu'on est passé à côté de ce qu'est par essence même l'éco-responsabilité.
Et ça, est-ce que vos clients le comprennent aussi que...
Nos clients commencent à bien le comprendre parce que nos clients sont soumis aux mêmes contraintes et que ce que recherchent nos clients, c'est des partenaires qui soient non pas suiveurs ou proposeurs de solutions standards, mais ils recherchent des partenaires qui soient proactifs, qui soient agiles, intelligents et qui ne fassent pas du développement durable par green bashing ou quoi que ce soit, mais par conviction, avec la volonté de proposer des solutions pas forcément extraordinairement onéreuses, mais d'abord de la bonne intelligence et juste du bon raisonnement, j'allais dire comme savaient le faire nos anciens.
Après, parfois, c'est difficile de faire la différence entre le greenwashing et puis une réelle responsabilité par rapport à l'environnement.
C'est toujours difficile, oui et non. Quand on rentre dans les détails, c'est très simple de faire la part des choses.
Est-ce que peut-être une dernière question, est-ce que vos clients, ils viennent vous consulter en amont, avant même, peut-être pour des conseils
Oui, de plus en plus.
Pour que vous les aiguillez justement par rapport au terrain à acheter, par rapport à ce qu'il faut faire, est-ce que par rapport justement à cette éco-responsabilité, est-ce qu'ils viennent vous consulter en amont?
Oui, et c'est vraiment la nature de GSE que d'être porteur de services, de conseils, de bonne intelligence auprès de nos clients très, très en amont. C'est ce qui fait le développement de GSE, c'est d'être capable d'accompagner depuis la première idée d'un projet immobilier, logistique, donc immobilier, jusqu'à la bonne mise à disposition et bonne mise en service de ces projets par l'exploitant. La confiance, on la gagne auprès de nos clients quand on est très très en amont, quand on apporte les bonnes solutions et quand on est capable de prouver par les actes que c'était les bonnes décisions et qu'on a apporté les bonnes solutions. Et là, on est dans l'ADN de GSE qui n'est pas de faire un coup avec un client, mais de construire une relation dans le temps par la confiance et en montant toujours le niveau d'exigence que nous avons vis-à-vis de nos collaborateurs pour servir nos clients de la meilleure des manières.
Et peut-être, allez, dernière question cette fois-ci, pour la logistique de demain, les plateformes logistiques de 2050 par exemple, comment vous les imaginez? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui changent, hein. Là, je pense par exemple aux ZFE, les zones à faible émission, hein, qui sont en développement. En 2025, elles sont 43. Là aujourd'hui, on n'en compte que 11. Ça en fait partie. Comment vous imaginez du coup les plateformes logistiques de 2050?
Elle sera pas du tout comme aujourd'hui, la plateforme logistique de 2050. Elle sera très intelligente, porteuse de beaucoup d'innovations. On parle plutôt chez nous de logistriel, d'ailleurs, que de logistique, puisque demain, on aura des usines à colis avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'automatisation.
C'est-à-dire des robots font la livraison?
Non, c'est pas les robots qui font la livraison, c'est beaucoup de tâches qui seront des customisations que ne feront plus les industriels, mais qui seront faites sur les sites logistiques. Ça veut dire des bâtiments logistiques sur lesquels on va monter en classe de compétences, sur lesquels il y aura, oui, peut-être un peu plus d'automatisation, de convoyage, de robotisation des tâches les plus ingrates, mais sur lesquelles on aura de plus en plus d'employés et d'emplois stables. Ça, c'est le bâtiment logistique de demain qui n'aura plus rien à voir avec la boîte à chaussures d'il y a 20 ans, entre guillemets, si je peux me permettre d'être un tantinet péjoratif. Ce seront des bâtiments qui seront des vrais centres de production énergétique, puisqu'on a la capacité de mettre de grosses centrales photovoltaïques sur nos projets, qui vont permettre d'auto-alimenter nos projets, peut-être même de contribuer à des bulks d'alimentation de stations hydrogène, qui viendront faciliter le rechargement en hydrogène des camions, puisqu'on peut imaginer que l'avenir du transport, ce sera l'hydrogène et l'électrique. L'électrique ou l'hydrogène, chacun sa conviction sur l'un ou l'autre ou sur les deux. Et ce seront des bâtiments qui seront, comme je vous le disais, très respectueux de l'environnement, sûrement avec des initiatives très sociales, avec peut-être des fermes partagées accessibles pour les voisinages et pour la proximité, avec des initiatives assez fortes sur les écosystèmes et avec un croisement de métiers. Je pense que demain, la logistique accueillera très certainement des zones, des micro-zones pour des data centers, parce qu'on sait que les data centers vont devoir servir le développement des objets connectés qui vont servir les développements de nos sociétés. Et parce qu'on sait aussi que peut-être demain, on aura envie de rajouter dans ces grands centres de distribution bien d'autres services. Je parlais de ferme tout à l'heure. On aura peut-être des services multimodaux, on aura peut-être effectivement du data center, mais on aura peut-être aussi des petites activités industrielles qui viendront s'y greffer. Voilà, on sera plus sur des bâtiments qui seront des lieux de vie à très forte valeur ajoutée que des simples bâtiments de stockage.
Eh bien, merci infiniment, Robert Demarchy. Je rappelle que vous êtes directeur du développement pour le groupe GSE. Merci beaucoup, Audrey Jourdain, pour la préparation de cette émission.
Merci beaucoup, Bérénice. Merci beaucoup, Monsieur Demarchy.
Et on se retrouve bien le mois prochain pour un nouveau numéro du Mag au Carré. À très vite sur Radio Immo.
Le Mag au Carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.